Bonjour à tous, c'est Laurent pour l'émission Au cœur de l'action. Nous sommes au cœur du festival Les Solidarités sur les hauteurs de Namur et nous sommes avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Julie, ici on est sur Belles réfugiés.
Exactement. Donc c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de migration en Belgique et on essaie de proposer des services de première ligne aux personnes qu'on rencontre, qui ont besoin d'accompagnement, d'hébergement, de suivre des cours de langue et voilà, on essaie de pouvoir proposer des services de première ligne à ces personnes qui ne pourraient peut-être pas se retourner vers d'autres structures.
Alors, hier j'étais dans l'association Ceci n'est pas une crise, donc on ne va pas forcément parler de crise de l'immigration, mais il y a un problème au niveau de l'accueil des réfugiés en transit ou voulant s'installer ici en Belgique.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que notre public de base, si je puis dire, ce sont les personnes dites migrantes, donc qui ne peuvent pas faire appel aux aides de l'État parce qu'elles n'ont pas encore décidé si elles voulaient rester ou non en Belgique ou quel était leur projet migratoire. Et également, bien depuis quelques années, la crise de l'accueil qui s'est intensifiée. Et donc, les personnes qui ont introduit une demande de protection internationale ne sont plus accueillies par fait d'asile ou bien dans des délais qui sont beaucoup trop longs et qui donc doivent se retourner vers les associations de terrain, telles que la nôtre, la plateforme citoyenne, pour avoir accès à de l'hébergement, éviter la rue et pouvoir lancer un petit peu des démarches administratives ou quelconque suivi essentiel.
Alors, vous êtes à l'origine un collectif citoyen. Vous êtes né à quel moment ?
En 2015, au moment où il y a eu une des crises de l'accueil, déjà à l'époque où des centaines de personnes sont arrivées plutôt du Moyen-Orient, sont arrivées vers l'Europe et notamment à Bruxelles, mais se sont retrouvées sans solution d'hébergement et autres. Et bien donc c'est à ce moment-là que la plateforme citoyenne s'est créée, d'abord des initiatives individuelles qui ont pu être amenées vers du collectif pour apporter une réponse qui soit vraiment en accord avec les besoins des personnes qu'on rencontre.
Alors pour mettre sur une ligne du temps, c'était la fameuse crise où le parc Maximilien, qui est en face de fait d'asile, enfin du ministère
de l'Office des étrangers,
à l'époque.
Oui, tout à fait.
Donc c'était le parc était envahi de réfugiés qui attendaient une solution.
Exactement.
Et c'est là que le collectif a décidé de se mettre en place.
Exact.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme première action justement ?
Eh bien alors d'abord c'était d'apporter de l'aide matérielle, donc des tentes, des vivres, de quoi manger. Ça a été également les prémices du CISA, qui est notre service d'information sociale et administrative, qui est toujours un service hyper essentiel aujourd'hui pour apporter de l'information sociale et juridique aux personnes en situation de migration. Et ensuite ce camp a duré un mois environ, puis les personnes ont été accueillies dans les centres officiels de fait d'asile. Et donc ensuite c'est développé d'autres solutions, si je puis dire, puisque en 2016-2017, de nouvelles arrivées, plutôt des personnes originaires d'Afrique de l'Est, d'Érythrée, pour ne citer que ce pays-là. Et là, la plateforme s'est surtout fait connaître pour des questions d'hébergement citoyen, où des citoyens, des citoyennes ont ouvert leurs portes pour accueillir des personnes en migration.
Alors, comment ça se passe pour un citoyen qui, à ce moment-là, accueille un réfugié ?
Eh bien, il entrait en contact avec nous, soit directement via le parc, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on était assez visible sur les réseaux sociaux pour toutes ces questions-là. Et donc, on mettait en lien des personnes en migration avec des familles d'accueil, d'abord pour une, deux, trois nuits, une, deux, trois personnes. Et ensuite, on essayait d'organiser comme ça les rencontres entre les citoyens et les citoyennes et les personnes en migration pour essayer qu'elles puissent se reposer un tant soit peu. Et puis ensuite, voilà, on a pu développer des plus grandes structures d'accueil. L'hébergement citoyen est toujours un super levier de sensibilisation et de rencontre. Et c'est vrai qu'en parallèle à cela, on a développé des plus grandes structures d'hébergement à Bruxelles et en Wallonie pour pouvoir accueillir un maximum de personnes et alors avoir des services plus vite disponibles pour ces personnes-là aussi.
Alors, on en parlait juste avant de prendre le début de l'émission. On n'est pas en France. Le délit de solidarité n'existe pas. Donc, les personnes qui accueillent un migrant en transit ou un sans-papier, malheureusement, il n'y a pas de délit pour eux.
Non, il est tout à fait possible d'aider une personne, qu'elle soit en situation irrégulière ou qu'elle ait besoin d'un coup de main temporaire ou à plus long terme. En Belgique, on peut venir en aide aux personnes tant que ça rentre dans les conditions de l'humanitaire et de vouloir aider de manière bénévole et avec le cœur.
Alors, qu'est-ce que ça... au niveau des personnes, leur expérience par rapport à accueillir un migrant à domicile.
Alors on a des milliers d'histoires très positives, de chouettes rencontres, des personnes qui ont pu rester à plus long terme, qui finalement ont pratiquement été adoptées par la famille. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le temps, et bien l'accueil d'une personne chez soi, ben, on crée des liens évidemment. Et puis ça permet de faire des rencontres qui à plus long terme peuvent permettre de développer des relations, des amitiés, et puis surtout de permettre d'être une famille d'accueil pour que la personne puisse se sentir accueillie dans son nouvel environnement. Et on sait que le contact au travers de la population, de l'hébergement, comparé à celui plus institutionnel, c'est un sacré levier de sensibilisation, de rencontre et de déconstruction de tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir par rapport aux personnes en migration.
Alors justement, les stéréotypes, je suppose que tout n'est pas gagnant à 100%, qu'il y a aussi des difficultés par rapport aux différentes cultures. Quelles sont justement ces petites difficultés et quelles sont les solutions apportées quand ça arrive ?
Alors, il y a plein de difficultés qui sont au final plutôt des ajustements à faire qu'autre chose. J'ai un exemple qui me vient en tête. Une personne qui accueille une personne qui provient plutôt d'une région du monde où la négociation est quelque chose d'assez commun, et qui se retrouve à la caisse d'un supermarché et qui veut négocier le prix du pain. Alors c'est drôle au final. Il y a plein de petites situations comme ça où au final on arrive à s'ajuster. Et si par exemple on parle maintenant de la réalité actuelle de la plateforme, au sein de notre dispositif, on a différentes équipes de médiation interculturelle qui sont des équipes de médiateurs et de médiatrices issues des pays d'origine des personnes qu'on accueille, et qui donc permettent de faire le lien et linguistique, évidemment, parce que il y a les langues afghanes, érythréennes, éthiopiennes et bien d'autres, et en même temps tout ce qui est lien culturel. Et donc pour nous permettre aussi à nous de pouvoir mieux comprendre la culture, de pouvoir mieux apporter aussi des clés d'adaptation, si je puis dire, pour leur nouvel environnement. Et donc voilà, on travaille toujours en lien avec des personnes qui sont issues même des cultures pour arriver au mieux à cohabiter ensemble. C'est le but.
Alors aujourd'hui, vous êtes une association, vous n'êtes plus vraiment un collectif de citoyens. Comment on chiffre, comment ça se passe dans votre association ?
Alors, c'est vrai qu'on était un collectif citoyen à la base, qu'on s'est constitué en ASBL. Eh bien, aujourd'hui, on est 230 salariés, donc c'est super chouette. On a une très grande équipe. On compte au moins 500 volontaires qui nous donnent des coups de main de manière assez régulière. Et pourtant, on a toujours beaucoup d'envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, il y a toujours de la place pour que de nouveaux volontaires ou de nouveaux collègues nous rejoignent et participent à l'accueil des personnes.
Combien en chiffres, combien d'accueil vous avez accueilli, et en permanence, combien de familles sont prêtes à accueillir des migrants ?
On compte aujourd'hui environ 1100 places d'hébergement dans des structures d'accueil de la plateforme, et plus ou moins 250 personnes accueillies par jour par des familles hébergeuses.
Alors, est-ce que ce sont des hébergements à court terme, ou à plus long terme ?
Chacun peut décider de l'accueil qu'il décide de proposer, parce que chacun doit le faire en fonction de ses propres choix et de ses limites. Donc on peut accueillir une personne pendant 1, 2, 3 jours, ou bien on peut accueillir une personne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la situation, de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on est en mesure de pouvoir proposer.
Les migrants qui arrivent en Belgique, il y en a qui sont en transit, il y en a qui veulent peut-être s'installer en Belgique. Comment ils accueillent cette aide qui est quand même un peu exceptionnelle, parce qu'en France c'est interdit, en Allemagne c'est à peine toléré, en Belgique ça fonctionne ?
Eh bien, ils l'accueillent très bien. Je pense qu'on part peut-être de certains a priori de la part des familles hébergeuses ou des personnes qui s'engagent dans le mouvement, et du même côté des personnes qui font appel à nos services. Et pourtant, on se rend compte que c'est au travers de la rencontre qu'on arrive à démystifier tout ça, et qu'au final, on a de très bonnes relations. Et comme je le disais, pas mal de personnes issues même des pays d'origine qui parfois sont même passées par les services de la plateforme, qui aujourd'hui dédient leur carrière à leur communauté pour leur venir en aide et pour participer à cet effort collectif.
Alors, les accueils, c'est des familles ou donc les accueillants, ce sont des familles, des couples seuls. Quel genre de population
Alors, il y a de tout type de profil, si je puis dire. Il va y avoir des personnes seules, des personnes qui sont simplement en couple ou alors des plus grandes familles. C'est vraiment différent. Il y a plein de types de profils différents. Chacun est le bienvenu pour créer cet accueil.
C'est des liens culturels, des échanges culturels, des histoires d'amitié.
Oui.
C'est important, aujourd'hui, en 2024, de connaître l'autre, de pouvoir partager une vie en société.
Évidemment. Je pense que, d'autant plus en 2024, là où bien parfois les liens sont un peu plus distants ou parfois plus virtuels, le fait de vraiment rencontrer l'autre et de le reconnaître dans sa singularité, de par son histoire, de par ses passions, ses envies, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, c'est au travers de cette rencontre-là qu'on arrive justement à créer du lien et qu'on arrive à développer des relations pour justement pouvoir se reconnaître chacun dans notre singularité et pour apporter à l'autre, c'est des autres qu'on se nourrit et c'est des cultures différentes aussi qui nous entourent, qu'on arrive à revoir de certains aspects notre manière d'appréhender le monde. Et c'est vrai qu'au travers de ces rencontres et en étant en contact avec des cultures qui parfois sont très très éloignées de la nôtre, eh bien qu'on arrive à s'enrichir.
Vous me parliez tout à l'heure de 230 salariés, oui, au sein de l'association, j'y arriverai, je bégayais et fatigué. Quelles sont justement les disciplines de ces salariés ?
Alors, elles sont très diverses. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais c'est vrai que dans la vie associative, eh bien, on a déjà dans les centres d'hébergement les personnes qui nous aident à gérer au quotidien les centres d'hébergement, à apporter de l'information aux personnes qui sont accueillies. Donc, on va avoir des personnes qui vont être là pendant la nuit, des personnes qui aident en cuisine, mais aussi des personnes qui vont être juristes, assistantes sociales, des interprètes, des personnes qui sont en charge de la logistique, parce qu'évidemment, des grands centres d'hébergement, même des plus petits, eh bien, ça demande tous ces ajustements logistiques, mais on va avoir aussi tout le côté vie administrative de l'ASBL, donc tout ce qui est comptabilité, communication, coordination. On a aussi des profs de langue, des éducateurs spécialisés. On essaye vraiment d'avoir des équipes les plus pluridisciplinaires possibles pour apporter les meilleures réponses aux besoins des personnes.
Est-ce que vous faites des formations aussi pour aider à l'accueil des migrants ou des participer à cette intégration et à cet échange culturel?
Tout à fait. Alors, il y a des séances d'information qui sont à destination des personnes qui voudraient accueillir une personne en migration et qui se posent évidemment plein de questions. On a également des séances d'information qui vont concerner plutôt le bénévolat de manière générale, des séances d'information qui vont plutôt concerner aussi le bénévolat dans des structures un peu plus spécifiques. Je pense là notamment aux hébergements collectifs ou à la Sister House, qui est un hébergement en non-mixité, donc seulement pour des femmes. Et donc voilà, on essaie de pouvoir proposer ces séances d'information, que ça soit sur la thématique de l'hébergement, sur la thématique du bénévolat, comment faire, quoi faire, où être utile, et de pouvoir répondre aux différentes questions des personnes.
On arrive à la fin de notre entretien. Comment on fait pour vous contacter et pour vous découvrir ?
Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez nous joindre via notre site web ou via les réseaux sociaux, bellrefugees.be. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Chacune est le et la bienvenue pour rejoindre nos actions, que ça soit de manière ponctuelle ou à plus long terme. Tout le monde est le bienvenu. On accepte tout type de profil pour des missions tout à fait diverses. Donc voilà, contactez-nous via les réseaux sociaux et on vous répondra le plus rapidement possible.
Et vous êtes sur Les Solidarités jusque ce soir.
Merci.
Merci beaucoup pour l'entretien.
Merci
et je vous dis à très bientôt. Alors, on va mettre une petite pause musicale, le temps d'aller dans une autre association et on se retrouve juste après.
Dans une petite rue sous un lampadaire, des musiciens se retrouvent venus de tous les coins de la terre. Ils accordent leurs instruments, des sourires en partage. Le jazz en toile fond, le monde devient un village. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. faire du monde ensemble, unissons nos destins. Les tambours africains aux guitares brésiliennes, les violons d'Europe, les flûtes d'Indiennes. Chaque son raconte une histoire, une mélodie d'espoir. Le jazz nous guide, brise les frontières sans égard. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde, faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. Musiciens du monde, ensemble unissons nos destins. Dans chaque note, une promesse, une lueur. Un avenir serein, un monde meilleur. La musique comme langage universel. Nos âmes s'entrelacent, nos espoirs se révèlent. Ensemble jouons la joie, partageons la paix. Sous les étoiles du monde, faisons vibrer nos cœurs. Les notes s'élèvent, unissent nos voix. Musiciens du monde, ensemble unissons nos destins. Alors jouons encore jusqu'au bout de la nuit. Que la mélodie de la paix nous guide et nous lie. Les musiciens du monde, main dans la main, partageons la joie jusqu'à demain matin.
Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant.
C'est toujours Laurent en direct des Solidarités à Namur. Alors, on a rejoint Mentor Jeune et je suis avec une invitée et j'ai mal travaillé, je ne connais pas le prénom de madame. Bonjour madame, présentez-vous un petit peu.
Bonjour monsieur, je m'appelle Mariana, je suis psychologue et je travaille chez Mentor Jeune depuis 2016. Donc c'est une association qui s'occupe du placement familial des jeunes mineurs étrangers non accompagnés. Et nous recherchons les familles d'accueil pour ces jeunes, puisqu'il n'y a jamais assez de familles il y a toujours plus de jeunes que de familles.
Alors, dans le jargon social, on parle de MENA, mineur étranger non accompagné. C'est quoi un mineur étranger non accompagné ?
Donc, c'est un jeune migrant qui vient de pays différents, de partout dans le monde, surtout du Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, ainsi que de l'Afrique. Et donc, il vient en Belgique tout seul, sans parents et sans représentant légal. Donc, quand il arrive en Belgique, il est non accompagné par une autorité parentale.
Alors, en Belgique, l'accueil des MENA est bien réglementé?
Tout à fait. Donc, en arrivant en Belgique, les jeunes MENA, ils sont tout de suite pris en charge par le fait d'asile et les centres Croix-Rouge et aide à la jeunesse, etc. Donc ils passent d'abord par un dispatching, ils sont dirigés vers des centres et un tuteur est désigné. Donc un tuteur qui va représenter l'autorité parentale du jeune.
Alors en Belgique, les MENA, ils arrivent, ils ont à peu près quel âge, la moyenne d'âge de MENA qui arrivent en Belgique?
Alors la grande majorité des jeunes a entre 13 et 17 ans. Après, nous avons quand même aussi des plus jeunes, parfois des plus petits, qui arrivent avec un grand frère, une grande sœur ou un membre de la famille, mais qui ne sont pas les parents. Et donc, pour ces jeunes-là, nous cherchons aussi des familles d'accueil, mais la grosse majorité, c'est des adolescents.
Alors, une famille d'accueil, c'est quoi pour un MENA ?
Une famille d'accueil, ça peut être... une famille avec papa, maman, des enfants, mais ça peut être aussi des personnes seules, un couple sans enfants. Ça peut être un monsieur, une madame, de tout âge aussi. On n'a pas vraiment de limite d'âge puisque les jeunes sont déjà plus grands. Donc on a besoin des familles en général pendant 5-6 ans pour accueillir un MENA. Donc voilà.
Alors qu'est-ce qui représente, qu'est-ce que la famille doit faire par rapport à ce MENA ?
Mais disons que c'est accueillir le MENA au quotidien, ça veut dire de le prendre soin de lui à tout niveau, c'est-à-dire la scolarité, les activités, le soutenir par rapport à son histoire et par rapport au contact qu'il a avec sa famille ou avec la communauté issue de son pays, ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu le prendre en charge au quotidien.
Alors, c'est vous, comment les MENA vous contactent? Est-ce que vous passez par le réseau FEDASIL ou est-ce que c'est les gens qui vous appellent pour dire « moi j'ai une place, j'aimerais bien d'accueillir quelqu'un » ou le MENA arrive chez vous peut-être tout seul?
C'est pas vraiment le MENA qui arrive tout seul, ça peut arriver mais très rarement. Mais par contre, c'est les tuteurs ou les centres qui accueillent les MENA qui nous contactent pour des MENA qui souhaitent être dans une famille d'accueil. Et par contre, les familles, ben, ils doivent se rendre sur notre site ou s'inscrire ici au stand pour une séance d'information collective où on va leur décrire un petit peu toutes les étapes du projet et on va accueillir les personnes qui souhaitent devenir famille d'accueil. On va faire plusieurs entretiens avec eux pour les préparer.
Donc un peu de l'éducation permanente pour pouvoir pas
on peut dire ça,
apprendre oui. à accueillir quelqu'un qui n'est pas de la même culture, oui. un jeune qui ne maîtrise peut-être pas une langue.
Bien sûr. Donc alors nous on appelle ça le processus de réflexion pour devenir famille d'accueil et on leur propose une réflexion ensemble pendant 2 ou 3 mois avant de passer dans le vif du sujet et d'accueillir un MENA à la maison.
Alors, je sais que ça peut très bien se passer la majorité du cas.
Oui.
Quels sont les liens qui sont entre les familles et les accueillants? Entre les MENA qui sont accueillis, parce qu'à un moment donné, le MENA, il devient adulte, il grandit.
Oui, oui.
Donc, quels sont ces liens? Est-ce qu'il y a des liens qui sont renforcés entre ces personnes?
Bien sûr. Donc, les jeunes, la plupart du temps, nous, on va placer les MENA dans les familles et puis on va suivre la situation du MENA jusqu'à sa majorité. Mais après la majorité, généralement, les jeunes restent en famille d'accueil ou bien ils vont en autonomie, mais ils continuent à avoir des contacts réguliers avec la famille d'accueil. C'est un peu comme nos enfants qui vont en côte et qui reviennent le week-end. Et donc, c'est en général, le pari est gagné puisque le jeune, il a un ancrage dans la société belge et il peut continuer à avoir des contacts, à avoir des réponses à ses questions parce que en tant que jeune adulte, on a souvent beaucoup de questions et beaucoup de challenges au quotidien et donc ils ont toujours quelqu'un à qui s'adresser.
Une référence aussi locale et de lien.
De fait.
Alors, quand le MENA... Il y a malheureusement peut-être des situations qui sont peut-être un peu plus compliquées. Est-ce que vous avez un service de médiation justement pour rencontrer le MENA, la famille, pour voir un peu où sont les problèmes, etc.
Oui, en effet, donc comme je disais, on suit les situations du jeune jusqu'à 18 ans. Donc pendant toute cette période, on va accompagner la situation du jeune. Il y a toujours un référent jeune, un référent famille et... S'il y a des problèmes ou pas, on continue à les suivre et donc on est plus près de la situation pour pouvoir agir et intervenir quand il y a des difficultés, des incompréhensions. On organise des entretiens, des activités pour les familles, pour les jeunes et tous ensemble. Donc voilà, on travaille tout ça au quotidien avec eux.
Alors on va parler chiffres.
Ok.
Alors ça représente combien de MENA? Votre association et votre suivi?
Ben, nous avons, depuis 2016, accompagné plus ou moins 230 situations. Actuellement, on est subsidié pour 60 situations au quotidien. Donc, on a 60 situations qu'on suit actuellement, qui sont en cours, on va dire. Donc voilà, après, il y a aussi des chiffres par région, par nationalité du jeune. Donc, on a beaucoup d'Afghans, mais on a aussi des Ukrainiens, des Africains, les Guinéens, les Érythréens, des Soudanais, etc. Donc, 60 situations au quotidien et 230 qu'on a fait depuis 8 ans, depuis le début du projet.
Ça représente combien de familles qui sont prêtes à accueillir des MENA?
Ben, actuellement, on a pas beaucoup de familles, justement. Des nouvelles familles, on en cherche. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup d'événements, puisqu'on a du mal à nous faire connaître du grand public. et on a justement besoin de que les radios, les TV, etc., les journaux parlent de nous. Et on vous remercie d'ailleurs de faire cette interview aujourd'hui pour nous.
Alors, combien de familles avez-vous actuellement ?
On en a 60 familles actuellement, oui, oui.
Combien il vous faudrait de familles pour pouvoir assumer l'accueil de ces ménas qui sont soit en fait d'asile et que ça ne fonctionne pas, mais malheureusement également des ménas qui ne sont pas pris en charge par manque de place et par manque de situation.
Voilà, ben alors, disons que nous, on en a besoin tout au long parce qu'il y a des jeunes qui sortent régulièrement du dispositif vu qu'ils deviennent majeurs. Et donc, on recherche tout le temps des nouvelles familles. Alors, si on pourrait en avoir 10 aujourd'hui, ça serait formidable, mais aussi 10 dans 3 mois et 10 dans 3 mois donc, après. Donc,
on va faire l'appel.
Oui.
Donc, vous avez besoin de nouvelles familles pour accueillir des ménas.
Oui, oui.
Et comment on fait pour vous contacter ?
Voilà, alors, pour ceux qui sont en solidarité aujourd'hui, on a un stand ici et on peut s'inscrire pour une séance d'information collective. Voilà.
Demain, les solidarités, c'est fini.
Voilà. Et alors, il y a notre site, donc www.mentorjeune.be, ou bien on nous a envoyé un email à info@mentorjeune.be.
Vous êtes situé dans votre association à Bruxelles ?
Alors, notre association a le siège social à Bruxelles. C'est 271 Avenue de la Couronne à Ixelles. Sinon, on a des bureaux à Namur et à Liège. Et donc, on peut accueillir des familles dans nos antennes aussi.
Donc, on rassure aussi nos auditeurs. Les familles sont suivies. Ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes.
Exact.
Il y a un travail avec votre association pour que tout se passe bien pour tout le monde.
Tout à fait. On prépare en amont et puis on suit les situations jusqu'à la majorité des jeunes. Donc, on est... On contacte non-stop avec les familles, avec les jeunes, de manière collective et de manière individuelle aussi.
Alors, on rappelle une dernière fois l'adresse internet, mentorjeune.be, au pluriel.
De fait. Et aussi, donc, l'email, c'est info@mentorjeune.be.
En tout cas, merci pour votre accueil au sein de votre stand. Et nous, on lance l'appel à nos auditeurs, manifestez-vous et venez rejoindre Mentor Jeune et aider ces ménas qui sont parfois avec des histoires difficiles.
Merci beaucoup.
Alors nous, on va faire une petite pause musicale, le temps d'aller rejoindre une autre association. Donc restez à l'écoute de Radio Solidarité. Nous serons ensemble jusque 15h au cœur de l'action, au cœur du festival Les Solidarités.
Dans les rues où on marche, y a trop de mépris. On crie justice, mais les voix restent en crise. Ils ferment les yeux sur nos souffrances. On est là pour briser le silence. Levez les poings pour nos frères, nos sœurs. Justice raciale, on y met tout notre cœur. On ne lâche rien tant qu'ils n'entendent pas. Égalité pour tous, c'est ici que ça se fera. Levez les poings pour nos frères, nos sœurs. Justice raciale, on y met tout notre cœur. On ne lâche rien tant qu'ils n'entendent pas. Égalité pour tous, c'est ici que ça se fera. Avec des siècles d'oppression, des vies sacrifiées, on ne peut plus attendre, il faut se lever. Chaque homme, chaque femme mérite le respect. On brise les chaînes pour un avenir parfait. Levez les poings pour nos frères, nos sœurs. Justice raciale, on y met tout notre cœur. On ne lâche rien tant qu'ils n'entendent pas. L'égalité pour tous, c'est ici que ça se fera. Nos voix résonnent dans les rues et les places pour que chaque visage soit vu, pas une race. Unis par l'amour, unis par la paix pour que demain soit meilleur. On ne fait que commencer. Lever les poings pour nos frères, nos sœurs. Justice raciale, on y met tout notre cœur. On ne lâche rien tant qu'ils n'entendent pas. Égalité pour tous, c'est ici que ça se fera.
Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant.
Nous continuons notre tour des associations ici au festival Les Solidarités. Nous avons rejoint une association internationale et nous sommes avec Justin qui est coach chez Greenpeace. Bonjour Justin.
Bonjour, bonjour, bonjour. Et alors, merci voilà, hein, de nous inviter.
On va parler assez fort, hein, on est dans le festival, oui. Il y a beaucoup de bruit.
Tout à fait, oui.
Alors, Greenpeace, en deux mots, c'est quoi ? Tout le monde connaît Greenpeace, mais on ne sait pas forcément ce que c'est.
Exactement. Greenpeace, en fait, contrairement à d'autres ONG, nous, on n'est pas une ONG humanitaire. C'est ça la différence, en fait. Nous sommes un groupe de pression citoyen. Depuis un certain temps, nous sommes devenus pratiquement comme un lobby citoyen. C'est-à-dire que nous allons là où les institutions, les lois se prennent et nous mobilisons les citoyennes et les citoyens afin de nous rejoindre et aller faire pression sur les décideurs, les multinationales, les industriels, les grands pollueurs afin de les contraindre à pouvoir protéger l'environnement, la protection de l'environnement. C'est ça Greenpeace en fait. Nous sommes un mouvement mobilisateur des citoyennes et citoyens afin de faire pression sur les industriels et les politiques.
Alors comment le citoyen fait pour mettre pression en passant par Greenpeace?
En fait, au niveau des efforts personnels, on peut diminuer son empreinte carbone. Hein. Parlons par exemple de la pollution, on peut diminuer son empreinte carbone. On peut faire des efforts à ne pas polluer, mais on ne peut pas demander à Shell, à Gazprom, à Total de ne pas faire ce qu'ils font sur la planète, n'est-ce pas? Mais quand ils nous donnent leur voix citoyenne, quand ils se joignent à Greenpeace, à un mouvement citoyen que nous sommes, à ce moment-là, nous pouvons nous porter garant d'aller utiliser leur voix citoyenne. Parce que les politiques, malheureusement, ne font plus le travail qu'on leur demande. Nous leur donnons des voix citoyennes, mais malheureusement, comme les politiques sont noyautées aussi par les industriels, les lobbies des entreprises et multinationales, ils ne font plus les rôles qu'ils doivent faire, le travail qu'ils doivent faire. Alors, en contrepartie, nous nous engageons à pouvoir utiliser les voix citoyennes qu'on nous donne afin de faire pression sur les industriels et les multinationales. Et on y arrive, parce qu'on a pas mal de victoires qu'on a déjà obtenues. Depuis 73 qu'on existe, depuis que Greenpeace existe, ça fait une cinquantaine d'années que Greenpeace existe et on a pas mal de victoires. Même dernièrement, nous avions obtenu un traité international pour la protection des océans. Aujourd'hui, il y a un traité qui est brandi qui protège 30% de nos océans. Pourtant, les océans étaient protégés à hauteur de moins d'un 2%.
Alors, on parle d'océan. Je vais rebondir sur l'actualité. On est un média. On va parler de baleines. C'est vraiment un sujet délicat et difficile aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les baleines? Et on sait qu'il y a une autre association où le président a été arrêté, qui n'est pas de Greenpeace. On peut confondre des fois. Mais qu'est-ce qui se passe justement avec ces baleines?
En fait, au niveau de la chasse à la baleine, ce qui se passe, c'est que au niveau des océans, on a laissé les océans sans protection. Donc, c'était fait à dessein. C'était pour permettre qu'on puisse continuer à exploiter les océans. Alors, on l'a laissé sans traiter du tout. On a juste protégé le pôle sud, qui était protégé à hauteur de presque 2%. Donc le reste était laissé aux chalutiers, aux industriels, les grands pollueurs et les industriels qui exploitaient les océans. Pareil pour la baleine. Même le Japon qui expliquait que voilà, il chassait la baleine pour des raisons scientifiques. Voilà, c'est superfuge. Maintenant là, ce traité international qui a été signé par l'ONU il y a vraiment des États qui ont signé ces traités-là et qui ont accepté de pouvoir protéger 30% de nos océans. Ce n'est pas un slogan, mais ça va exister. Ces 30%, vous le voyez vous-même, ça va nous permettre de pouvoir sanctuariser toutes ces zones que vous voyez ici en orange, que ça devienne de zones classées comme réserve marine protégée. Comme ça, non seulement ça peut protéger la biodiversité marine, qu'elle puisse se régénérer encore, mais aussi ça va permettre que ceux qui veulent investir dans les océans pour la chasse, pour la surpêche, ne puissent plus polluer les océans. Et c'est ça notre rôle actuellement. Nous nous battons pour qu'on puisse sanctuariser toutes ces zones ici et qu'on puisse les classer réserve mondiale. Maintenant, pour parler de l'ancien cofondateur de Greenpeace, Paul Watson, voilà, vous savez qu'il a été victime, évidemment, de l'arrestation. Nous sommes solidaires avec lui parce qu'il est parmi les cofondateurs de Greenpeace et son combat, nous le partageons aussi depuis des années ensemble. Nous partageons les mêmes valeurs. Mais évidemment, nous, on est restés non-violents. Tout simplement, c'est juste ça la différence que nous avons. Mais nous sommes de cœur avec lui et je suis sûr que Greenpeace va lui apporter assistance juridique parce que comme nous, nous avons une expertise juridique depuis longtemps, depuis un certain temps. Et voilà. Et nous croisons les doigts qu'on ne puisse pas trouver ou qu'on puisse trouver une loi qui ne lui permet pas de pouvoir extrader au Japon parce que là, il ne peut pas jouir d'une véritable équité juridique.
Alors, le problème des baleines, il en est où aujourd'hui dans les océans ?
Dans les océans, en fait, pour l'instant, les baleines posent toujours problème. Donc, elles ne sont pas toujours protégées. Mais c'est pour ça que nous nous battons pour ces traités internationaux-là.
De surpêche, c'est-à-dire des chalutiers qui pêchent n'importe quoi.
Parce qu'il n'y a aucune protection jusque-là. Mais avec ce traité 30-30, cette fois, c'est le seul traité contraignant qui va permettre que aujourd'hui les chalutiers, les industriels ne peuvent plus s'aventurer dans les océans comme ils les faisaient avant.
Les pays sont tous les pays commencent à rejoindre cette idée en fait, ou il y a des pays qui sont réticents en disant nous on fait ce qu'on veut.
Cette fois, ce traité, en fait, il a été fédérateur. C'est la première fois que nous avions vu des grandes nations, des grands États accepter de signer ce traité. En tout cas, il est historique. Il est historique, on l'a applaudi énormément parce qu'il était le seul jusque-là qui existe. Bon, évidemment, il y a cette urgence climatique qui est là. Ce n'est plus quelque chose que nous pouvons nous les cacher. Vous voyez vous-même comment les océans ne jouent plus leur rôle d'oxygéner la planète ou de capter notre CO2 parce que à cause de la pollution, les phytoplanctons, les tout ça, donc tout est pollué. Et nous sommes convaincus que si on protège les océans et que les océans jouent leur rôle d'oxygéner la planète, capter notre CO2, et qu'au niveau des forêts, on puisse par exemple décréter zéro déforestation, qu'on puisse non seulement protéger les trois grands bassins, les bassins d'Indonésie, les bassins d'Amazonie, le bassin forestier du Congo, ça peut permettre qu'on puisse capter aujourd'hui l'ensemble de notre CO2 et oxygéner la planète. Et à ce moment-là, on peut peut-être diminuer l'impact sur le réchauffement climatique, même si le dérèglement climatique est quasi irréversible, ça c'est clair. Mais au moins, on peut arriver à endiguer encore les effets ou l'impact sur le réchauffement climatique.
Alors, on est au Festival des Solidarités à Namur aujourd'hui. Ça se termine ce soir. Alors, qu'est-ce que le citoyen, qu'est-ce que vous proposez aux citoyens, aux festivaliers qui viennent ici sur le stand de Greenpeace ?
Aujourd'hui, nous proposons que les citoyennes et citoyennes puissent nous rejoindre. Nous avons besoin de soutien. Greenpeace a besoin de soutien.
C'est quoi un soutien ?
Un soutien, il est double. Il est d'abord un soutien moral, c'est-à-dire que nous donner la voix citoyenne de pouvoir aller parler au nom des citoyennes et citoyens, et ensuite nous soutenir financièrement. Parce que Greenpeace, nous sommes la seule ONG avec Amnesty International qui refusons les subventions publiques et tous les dons qui viennent des entreprises et des multinationales.
Nous sommes pourquoi ?
C'est pour garder l'indépendance totale. Parce que si nous prenons les subventions publiques, c'est tout, on est inféodé aux États. Nous, pourtant, nous remettons en cause les États qui laissent main basse aux entreprises à faire n'importe quoi et à polluer. Nous refusons aussi tous les dons qui viennent des industriels, des multinationales, parce que si dans l'entretemps ils nous financent, nous ne pouvons plus avoir la liberté d'agir et ça nous crée un conflit d'intérêts inutile. C'est ce que nous appelons du greenwashing. Et nous, on ne cautionne pas du greenwashing.
Ça veut dire que d'autres associations travaillent comme ça en recevant des subsides de...
C'est normal parce que ce sont des ONG humanitaires. Elles ont des urgences sur le terrain, c'est tout à fait normal. Tandis que nous, en tant que lobby citoyen, si nous prenons les subventions publiques, on est inféodé. Si nous prenons les dons des industriels, voilà, et notre combat est fait sur les industriels, nous ne pouvons pas. Tandis que les autres ONG, ils peuvent prendre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce qu'ils ne sont pas des lobbies citoyens.
Alors, je vois un roll-up ici à côté. 1 milliard d'actes courageux, quel sera le vôtre? Ça veut dire que Greenpeace a participé à des actions pour plus d'1 milliard d'actions?
En fait, nous voulons vraiment mobiliser tout le monde, qu'on puisse arriver à 1 milliard d'actes. Et ces actes-là sont des actes osés, parce que nous allons vers les industriels. Nous faisons pression sur ceux qui nous font penser que les citoyennes et les citoyens n'ont plus le pouvoir. Tandis que nous, nous remettons le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Et nous leur disons, mais donnez-nous tout simplement votre soutien et nous, nous allons mener ces actes courageux. Et c'est pour ça que nous demandons tout acte qu'ils puissent nous aider, tout soutien citoyen.
Les actes de Greenpeace dans la mer, dans les océans, sur la terre, dans les montagnes,
exactement,
partout.
La pollution,
la pollution, les animaux, la protection.
Oui, la biodiversité, ainsi de suite. Oui.
C'est notre avenir aussi, c'est l'avenir de la planète qui est important, qui est un enjeu crucial aujourd'hui.
Exactement, c'est un enjeu crucial parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'urgence climatique, ce n'est plus la nature ou l'environnement ou encore la planète qui est en danger, mais ça devient maintenant l'humain qui est en danger en fait. C'est ça ce que les gens doivent comprendre. C'est maintenant notre humanité qui est en danger actuellement. Ce n'est plus la planète qui est en danger, c'est notre humanité que nous sommes en train d'hypothéquer à cause de la pollution.
Alors, Greenpeace, demain matin, vous n'êtes plus au festival, il sera terminé. Vous allez revenir l'année prochaine, ici, au Festival des Solidarités. Mais comment on fait pour vous contacter, pour vous rencontrer?
Nous sommes sur greenpeace.be. Greenpeace.be. Vous pouvez toujours adhérer à greenpeace.be, nous faire les dons, nous soutenir. Et ça va nous aider énormément, parce que Greenpeace a besoin de soutien. Greenpeace.be.
Merci Justin pour cet accueil.
Avec
Merci
plaisir.
Merci de nous avoir partagé votre expérience et partagé l'expérience de Greenpeace avec nous et avec nos auditeurs. Je vous souhaite un bon festival, hein, le dernier jour, et on se reverra certainement bientôt.
Que vive Solidarité en tout cas. Merci pour l'accueil à ce festival que nous faisons chaque année et ça nous plaît énormément pour surtout le cadre et surtout la façon dont c'est organisé.
Voilà, donc nous, on va continuer notre petite promenade ici sur les solidarités. Il nous reste encore 15 minutes à passer avec vous sur l'antenne de Radio Solidarité. On va faire une petite pause musicale. On va passer une chanson écrite par notre label Solidarité Records, par Voix Solidaire. C'est Résistance Pacifique et c'est en exclusivité sur Radio Solidarité.
Ils sont venus avec leurs armes et leurs lois, mais nous avons choisi de ne pas plier sous leur poids. Dans le silence de la nuit, nos cœurs battent fort, car la vérité est notre plus grand trésor. Avec des mains nues, nous bâtissons l'avenir. Chaque pas est une victoire, chaque mot est un sourire. La résistance est notre force, notre notre bouclier. Ensemble, nous marcherons vers un monde plus entier. Ils ne comprennent pas que la paix est notre âme, que l'amour est plus fort que la violence qui désarme. Dans chaque regard, une lueur d'espoir, car nous portons en nous l'étincelle d'un nouveau départ. Avec des mains nues, nous bâtissons l'avenir. Chaque pas est une victoire, chaque mot est un sourire. La résistance est notre force, notre bouclier. Ensemble nous marcherons vers un monde plus entier. Nous ne céderons pas, nous ne faiblirons jamais. La justice est notre guide et le courage notre clé. Avec tes mains nues, nous bâtissons l'avenir. Chaque pas est une victoire, chaque mot est un sourire. La résistance est notre force, notre bouclier. Ensemble nous marcherons vers un monde plus entier.
Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant.
Alors, toujours en direct sur Radio Solidarité, nous sommes au cœur du festival Les Solidarités à Namur, hein, sur le centre Écolis. Et oui, ils ont déménagé. C'est plus la citadelle pour quelques années qui est en rénovation. Et nous sommes sur les hauteurs de Namur, à Soirlé très exactement, sur le zoning industriel Écolis. Et là, nous allons rejoindre une autre association, et la dernière pour aujourd'hui, c'est Respect Senior ASBL. Et nous sommes avec Pascal, qu'on connaît déjà bien chez nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors Pascal, tu es psychologue dans l'association Respect Senior. On la connaît, enfin je la connais en tout cas, mes auditeurs peut-être pas tous. Alors, c'est quoi Respect Senior?
Alors, bonjour aux auditeurs. Donc, Respect Senior, c'est l'agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés. Et l'idée, c'est de faire de la prévention et de l'accompagnement de situations de maltraitance, sachant que la maltraitance, elle peut être intentionnelle ou pas, et qu'on peut avoir des négligences, on peut avoir de la maltraitance physique, de la maltraitance psychologique, de la maltraitance civique. Et l'idée, c'est d'essayer d'accompagner les aînés qui ont l'impression qu'on ne respecte pas toujours leur choix et qu'on fait un peu comme s'ils avaient une date de péremption à partir de laquelle ils ne pourraient plus décider parce qu'ils sont trop âgés. Alors on va dire, mais t'es trop vieux pour acheter une voiture, mais non, tu vas quand même pas garder une maison aussi grande, ou il faut pas te faire opérer parce qu'il y a des risques. Mais en même temps, la personne, elle peut choisir des risques. Et donc on a une permanence téléphonique via le 0800 30 330 qui couvre toute la région wallonne, une antenne par province. Et donc on est là aux solidarités pour qu'on puisse rencontrer un maximum de gens. Voilà.
Alors la maltraitance, donc, ce n'est pas prendre une personne âgée, lui taper dessus, c'est pas que ça.
Pas du tout, effectivement. La maltraitance, c'est pas que de la maltraitance physique. On croit parfois qu'il n'y a que ça, parce que c'est peut-être celle qui se voit le plus, c'est peut-être celle qui est le plus médiatisée, mais effectivement, on a près de 30% de situations où c'est de la maltraitance psychologique. Ça veut dire, on va mal parler à quelqu'un, on va le tutoyer, on va faire ce qu'on appelle aussi une forme d'agisme. Ça veut dire que parce que la personne est plus âgée, on va lui parler très très fort, on va dire, ma petite mamie, allez, on va encore faire ça. Alors, gagatisés avec tous les vieux, ils n'aiment pas ça forcément. Ils ont envie qu'on les respecte, qu'on les considère. Ce sont des majeurs et ils ne sont pas devenus séniles à partir d'un certain âge.
Est-ce qu'il existe une définition précise de la maltraitance?
Tout à fait.
En personne âgées.
Oui. En fait, il y a un décret en région wallonne qui définit la maltraitance comme tout acte ou omission commise par une personne ou plusieurs personnes dans le cadre d'une relation personnelle ou professionnelle et qui va causer à la personne des dommages et quelque chose au niveau soit psychologique, soit physique, soit financier. Donc, c'est quelque chose qui est défini au niveau d'un décret, donc qui fait aussi que Respect Senior existe. Et vous avez aussi au niveau international des définitions qui existent au niveau de l'OMS. Et on sait qu'il y a quand même 5 à 6% des aînés qui sont victimes de maltraitance, donc ce n'est pas un phénomène anodin.
Alors, qui peut vous contacter ?
Toute personne qui se sent concernée ou intéressée par le sujet peut nous téléphoner, donc via la permanence, le 0800 30 330. Et comme on a des antennes dans chaque province, on peut vraiment faire un travail de proximité aussi. On peut rencontrer les gens, on peut discuter avec eux de la situation, on peut proposer des conciliations, on peut travailler avec les professionnels aussi qui se demandent, tiens, est-ce que c'est ou non de la maltraitance, et travailler avec eux. Et on a aussi tout un volet de prévention. Donc on peut organiser des formations pour les étudiants, pour les professionnels qui sont déjà en exercice, c'est comme ça, bah, ils apprennent un petit peu plus ce qu'est la maltraitance parce qu'elle est parfois encore méconnue.
Donc de l'éducation aussi permanente.
Tout à fait. On est vraiment un organisme de prévention où on essaye de prévenir les risques quelque part au niveau des aînés et de l'éducation permanente. Alors ce qui peut commencer très jeune parce que le phénomène de l'âgisme, bah, on se rend compte que des enfants au départ, ils ne sont pas âgistes. Ils n'ont pas l'impression que leur prof soit plus âgé ou plus jeune, c'est mieux ou c'est moins bien. Mais on apprend tout doucement dans la société. On va dire par exemple, oh c'est encore un vieux qui fait la file au supermarché à 9h alors qu'il n'a que ça à faire, ou c'est encore une vieille qui est au volant. Et quelque part, bah, cet âgisme-là, il est déjà ancré dans notre société. Alors on connaît le racisme, on connaît le sexisme, mais l'âgisme, il existe aussi. C'est penser que parce que quelqu'un est plus âgé, bah, il est un peu sénile et il ne sait plus trop ce qu'il veut faire. Voilà.
C'est dit avec humour, mais c'est une situation qui est quand même...
Tout à fait. Et en plus, on intériorise ces préjugés. Ça veut dire qu'on va dire, ben moi, je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour faire du skateboard. Je suis trop vieux pour faire du parachute. Alors qu'en fait, ben, ces limites-là, peut-être que c'est la société qui nous les met. Et jusqu'où, est-ce que vraiment, ben, c'est important, jusqu'où quand on vend des crèmes anti-âge et qu'on dit, ben voilà, avec ça, on va paraître 5 ans ou 10 ans de moins, c'est un peu un refus de vieillir aussi. Et c'est se dire que le vieillissement, c'est pas bien. Mais finalement, vieillir, c'est une bonne chose. Parce que si on vieillit, ça veut dire qu'on a encore des années devant soi. Et le drame, ce serait de ne pas vieillir. Donc, c'est aussi intégrer davantage les différentes générations dans la société. Et c'est pour ça que les solidarités, pour ça, c'est génial. Parce que toutes les générations se côtoient. Et c'est pas toujours le cas. Souvent, les générations sont plus cloisonnées. Et quand on se connaît pas, ben, on a des préjugés. On va penser tous les jeunes sont des fainéants qui travaillent pas, ce qui est une autre forme d'âgisme. Ou tous les vieux sont des vieux croutons qui s'en foutent de la musique, etc. Ben là, on voit bien qu'effectivement, ici, ce n'est pas le cas et que tout le monde se côtoie.
Donc, on rappelle, hein, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le festival, c'est un festival familial où on rencontre des familles, des grands-parents, des petits-enfants, vraiment...
Toutes les générations.
Toutes les générations, ouais. Confondues, mmh. Avec également une programmation musicale adaptée à toutes les populations.
À tout le monde, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir.
Alors, on arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Comment on fait pour vous contacter vous trouver ?
Alors, on se trouve donc en région wallonne, on couvre l'ensemble de la région wallonne. Et le plus simple, c'est de faire le 0800 30 330, qui est un numéro gratuit, donc 0800 30 330. Et donc, vous n'hésitez pas, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, et vous aurez un de nos collaborateurs qui vous répondra. On est soumis au secret professionnel, donc on ne fera jamais rien sans l'accord de la personne. On n'est pas la police, on n'est pas la justice. Et si vous avez besoin d'infos, contactez-nous.
Un site internet peut-être ?
Oui, respectsenior.be.
En un mot.
En un mot.
Voilà. En tout cas, Pascal, merci beaucoup nous avoir accueillis chez vous. Merci de nous avoir un peu éclairé sur les difficultés que peuvent rencontrer nos aînés. Et nous, on se dit à très bientôt.
À l'année prochaine.
Alors, chers auditeurs, on va maintenant devoir nous quitter. L'action, au cœur de l'action, notre émission touche à sa fin. Nous, nous sommes encore sur le festival Les Solidarités ici à Namur, festival organisé par le réseau Solidaris avec encore pas mal de concerts aujourd'hui. Hier, il y a eu Mika, Pierre Demar, le Saul et bien d'autres encore ici. Et aujourd'hui, on a encore plein de choses à découvrir. Alors, c'était Laurent en direct sur Radio Solidarité. Nous étions à Namur, au centre Écolis, où le festival a posé les podiums. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission au cœur de l'action.
Radio Solidarité, au cœur de l'action. C'est maintenant, c'est l'instant. Vous écoutez Radio Solidarité, la première radio francophone entièrement dédiée à la solidarité.